Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma femme, sous le signe, d'ailleurs comme beaucoup d'entre elles, sous le signe de la positive attitude, des bonnes vibes et de la bonne influence. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rizlan Riachi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Rizlan?
Ça va, super, alhamdoulilah.
Alors, Rizlan, c'est la sérielle entrepreneur, yak.
On peut dire ça.
on va rentrer dans votre vie à travers cette porte d'abord, parce que on va dire vous aimez vous essayer à différents secteurs, à différents projets, parfois très éloignés les uns des autres. C'est une curiosité
en fait,
de la vie.
J'aime bien saisir les opportunités qui se présentent. J'aime bien les challenges, j'aime bien les défis. C'est vraiment ce qui m'anime.
Et c'est le fil conducteur.
Exactement. Et au fait, les opportunités, c'est ce que j'ai pu au fait saisir, c'était des rencontres. Et puis, de fil en aiguille, ça donnait un sens au fait à ce que je voulais faire. Et puis voilà quoi.
Alors, le plus gros challenge que vous ayez à relever, qui sortait complètement de votre zone de confort, c'était lequel?
Alors, c'était au fait de gérer une entité, une filiale, sachant que je n'avais jamais suivi de formation management, finance, compta, et il fallait au fait gérer cette entité de A à Z.
Et quoi? Comment vous avez fait justement quand on n'a jamais fait ça? Alors, rewind, on va y aller petit à petit. Pourquoi on vous l'a proposé alors si vous n'aviez pas ces compétences-là, vous aviez lesquelles? Qu'est-ce qui a attiré ces gens qui sont venus vous chercher?
Au fait, c'est une entreprise américaine à la base, et donc comme tout le monde sait, les Américains se basent pas forcément sur les diplômes, mais sur les soft skills de la personne.
Exact.
Et donc lors d'un entretien, ils ont vu, alors eux ont vu, hein, moi je connaissais pas que j'avais du potentiel. Et donc ils ont misé, on va dire, ils ont misé sur moi.
Vous avez quand même été passer l'entretien, c'est-à-dire vous avez osé passer l'entretien.
Ah oui, on a passé l'entretien et on a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Ils m'ont fait passer quand même pas mal de questionnaires et de tests. Et c'est passé très vite parce qu'au fait, on s'était vu au mois de novembre et au fait, l'entité a été créée au mois de février. Donc ça, c'était vite fait quoi, et je ne regrette pas parce que je suis toujours avec eux, mais avec une autre casquette. Et ils m'ont appris, ils m'ont accompagné dans tout ce que j'ai pu faire quoi.
Mais bon, ils ont vu des choses que vous n'aviez pas vues, vous l'avez dit, mais en même temps, vous avez eu le cran, on va dire, d'aller passer un entretien pour un poste pour lequel, sur le papier, vous n'étiez pas forcément qualifié. Sur le papier, bien
oui,
sûr.
Oui, alors, c'est exactement ça, sauf qu'il y a une autre comment je veux dire...
façon de voir
anecdote,
les choses, oui, ok.
Non, une autre anecdote, c'est que le poste, il n'y était pas, en fait, j'ai... C'est comme si un peu j'ai, comment je vais dire...
provoqué la création
de... Ouais, exactement, parce qu'au fait, c'est très simple, hein, et c'est ce que je dis toujours aux jeunes, allez-y, allez-y quand il y a des salons, quand il y a des foires, quand il y a des... allez-y. Donc moi, je suis partie dans un salon, à l'époque, ça s'appelait France Expo.
Ok.
Et au fait, je me baladais dans les stands, et puis je vois un stand où c'était marqué « Développement du capital humain ». Et donc, je me suis arrêtée, j'ai discuté en fait avec la personne et la personne m'avait, voilà, on a discuté, elle m'avait fait passer quelques questionnaires, ce qu'ils étaient en train de promouvoir, on va dire. Et puis, de fil en aiguille, je leur ai dit, si vous êtes là en fait et que vous êtes sur ce salon-là, c'est que vous voulez vous installer au Maroc. Et ils m'ont dit, oui, au fait, l'objectif, c'est de tâter le terrain et de voir si on peut éventuellement s'installer. C'est là où moi, je leur ai dit, why not, quoi.
Oui, moi, je connais le terrain.
Exactement, je leur ai dit pourquoi pas.
Ouais.
Et c'est comme ça que c'est parti, au fait.
En fait, vous avez saisi cette connaissance de l'environnement marocain.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Vous avez touché au chocolat aussi.
Oui.
N'est-ce pas, Rizlaine?
Exactement, j'ai touché au chocolat, mais bon, c'était juste avant le Covid, malheureusement.
Alors, justement, le fait de ne pas avoir continué, le fait d'avoir quand même investi de votre temps, vous l'avez pas vécu comme un échec d'une entreprise?
Ah non, pas du tout.
Du tout?
Non, pas du tout. C'est une expérience. C'est une expérience. J'ai appris autre chose. Je connais mes limites, donc je savais qu'au fait, voilà, c'est pas ce qui me challengeait le plus. Voilà, je l'ai fait, c'était fun, c'était très bien, mais non, pas du tout, pas du tout. Moi, les échecs, en fait, pour moi, c'est toujours je vois pas vraiment les échecs. Pour moi, quand on bute, il faut se poser, se dire, ok, pourquoi on n'a pas réussi, et en fait, vraiment s'auto-évaluer objectivement et précisément, quoi, ne pas se voiler la face. On peut pas tout faire, on n'est pas non plus... Voilà, il faut savoir dire, ben oui, je sais ou je ne sais pas faire. Et puis, si je ne sais pas faire, si je veux continuer, ben qu'est-ce qu'il me faut? Aller chercher ce qu'il me faut pour y arriver. Et voilà, quoi. Donc, non. Franchement, non, je ne regrette pas. C'était une belle expérience.
Alors, il y a aussi ce côté un peu plus délicat à gérer au quotidien, celui de la pathologie, de la maladie quand elle s'installe pour longtemps.
Oui. Oui.
Et ça, c'est votre cas aussi.
Oui, j'ai une maladie auto-immune et que je vis avec. mais au fait, quand on me l'a annoncé, effectivement, c'était assez, assez dur. Mais j'ai vite rebondi parce que je me dis, bon, si c'est comme ça, ben c'est comme ça. Maintenant, je vais pas me lamenter sur mon sort. Je vais pas. Je croque la vie à plein dents, au fait. Je vis avec. Et j'écoute mon corps. Donc, quand je ne suis pas bien, ben, je me pose. Et puis, je me ressource. Et puis, voilà. Donc, en fait, franchement, à partir de cette maladie-là et autre chose hein, que j'ai rencontrée dans ma vie, j'ai privilégié l'équilibre vie privée-vie professionnelle.
Et, ça veut dire quoi, justement, cet équilibre vie privée?
Au fait,
ouais.
Ouais, en fait, je travaille, c'est-à-dire que même les clients avec qui je travaille pas, c'est pas... En fait, j'accepte pas toutes les demandes, hein. J'accepte les demandes qui me parlent, qui font sens pour moi, et je suis pas là, en fait, à essayer de travailler tous les jours, non, dans une semaine, je peux, par exemple, travailler 3 jours, et 2 jours, je me repose, ou peut-être ne pas travailler toute la semaine, enfin... Vraiment, j'essaye de prendre le temps pour moi. Le week-end, par exemple, alors j'ai mis 2 téléphones, un téléphone pro et un téléphone perso. Donc, le week-end, dès vendredi soir, je coupe le téléphone pro et je profite de mon week-end. Et voilà, donc c'est vraiment
C'est un choix de vie. C'est...
Exactement.
Alors, justement, ça s'est imposé à vous. C'est la maturité parce que j'ai fait exprès de commencer avec vous par le côté pro. Pour que les gens comprennent que même quand on a une pathologie, eh bien, à côté, ben, c'est une femme qui est dynamique, qui travaille, etc. Mais c'est important aussi de s'écouter, de prendre soin de soi et de ne pas essayer de dépasser ses limites pour prouver qu'on est capable d'être performant de la même manière qu'une personne en parfaite santé.
Tout à fait, tout à fait. Au fait, pour moi, ça n'a jamais été un handicap.
Oui.
J'ai toujours essayé de vivre comme si, voilà, comme si cette maladie n'existait pas, en fait. Parce que, bon, ça sert à rien. La vie continue, c'est comme ça. Hein. Tant que j'arrive à marcher, tant que j'arrive à respirer, pour moi, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont encore pires que moi, qui ont d'autres maladies beaucoup plus... Donc, en fait, non, j'ai toujours été optimiste et positive dans ma vie. Et j'avance et je travaille. Et puis, les personnes qui... Sincèrement, parce que entre nous, on en avait parlé une fois, mais il y a des personnes qui ne savent même pas que j'ai cette maladie.
Visible.
Ben oui, c'est des maladies invisibles au fait, donc les gens ne détectent pas. Voilà, si on n'en parle pas, ils peuvent pas savoir.
Alors, c'est quoi cette maladie justement, Rizlaine?
J'ai un lupus.
Et ça se manifeste comment?
Comment vous expliquer? Au fait, le lupus, c'est-à-dire que j'ai des... Je ne suis pas médecin, mais c'est mes cellules qui bouffent mes autres cellules, au fait. Voilà, donc c'est... Et c'est avec une fatigue, en fait, il y a beaucoup de fatigue, des maux de tête, douleurs articulaires, pas pouvoir se lever, des fois marcher c'est difficile, des insomnies, donc quand il y a des poussées ça peut être aussi de la fièvre, voilà, c'est vraiment assez...
Ça c'est pendant la poussée.
C'est pour ça qu'il faut une poussée. Ouais.
C'est pour ça qu'il faut éviter poussée et se gérer.
Oui, bah après, on est sur traitement, généralement, enfin, on est sous Plaquenil depuis, bah, voilà, c'est un médicament qu'on prend, enfin, toutes les personnes atteintes, ça ne stoppe pas la maladie, mais au moins, ça aide, quoi.
Oui. Alors,
après, par exemple, le soleil, c'est interdit, mais je ne m'interdis pas d'aller au soleil, on vit quand même dans un beau pays, donc voilà.
Alors, justement, j'avais eu la chance aussi d'interviewer des femmes, je crois 3 femmes touchées par la fibromyalgie. Chacune a trouvé sa façon de s'en sortir. Et le point commun entre ces 3 femmes, ça a été d'abord l'errance médicale pour poser un diagnostic sur leur état de santé. Est-ce que pour le lupus, c'est aussi compliqué que pour une fibromyalgie à comprendre, même pour les médecins?
Alors, pour moi, franchement, non. Non, parce que je suis tombée... Alors, c'est très simple, c'est arrivé, mais encore une fois, par hasard, non. Au début, j'ai eu une petite tache, au fait, à l'oreille. Je voyais que c'est une tache qui ne partait pas. Et je suis partie chez une dermato, au fait. Et cette dermato-là, en fait, dès qu'elle l'a vue, elle m'a dit, attendez, pour enlever toute ambiguïté, je vous fais une biopsie. Et donc voilà, donc elle a vite trouvé la maladie. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Par contre, j'ai une autre maladie qui est l'endométriose, où là, oui, là, c'était compliqué. Là, c'était assez dur. Mais même maintenant, en fait, elle n'est pas très connue, l'endométriose, même en France, hein, ils se battent. Pour celle-ci, oui, pour celle-ci, c'était un peu...
Parce que c'était
un peu du n'importe quoi.
Parce que à l'époque, c'était normal d'avoir très mal au ventre quand une jeune fille avait ses menstruations. Donc, je pense que c'est pour ça que c'était compliqué en fait. Voilà, elle a mal, c'est normal. Ben, tout le monde a mal. Ouais. Mais alors, il y a pas mal de médecins, notamment au Maroc aujourd'hui, qui sensibilisent à l'importance du diagnostic de l'endométriose parce que ce n'est pas normal de ne pas pouvoir, par exemple, aller en cours. Lorsqu'on a mal, lorsqu'on a ces menstruations.
C'est ça. Donc c'est ça, en fait. Il faut vraiment sensibiliser par rapport à ça. C'est là où il y a plein de gens qui connaissent pas. Mais même les parents, les mamans, parce qu'on se dit, oui, mais moi aussi...
J'avais mal, ça, ouais.
Voilà, c'est normal qu'une femme souffre. C'est normal que... là, oui. Mais pour le lupus, non, franchement, j'ai été bien prise en charge... J'ai pas eu de soucis par rapport au lupus. C'est vraiment l'endométriose où il y a eu un problème.
D'accord. Est-ce que l'une est responsable de l'autre? C'est possible ou pas?
Oh non, je pense pas. Non, il n'y a pas de lien.
Il n'y a pas de lien. Alors, revenons à cet équilibre vie privée et vie pro que vous vous êtes instauré. Ça demande énormément de maturité de dire, bon ben, je ne vais pas être la carriériste. Je vais bien bosser. Je veux faire de mon mieux, mais il y a moi aussi. Est-ce que ça vous a coûté émotionnellement d'arriver à cette prise de décision?
Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas carriériste.
Oui, mais c'est-à-dire vous temporisez, c'est-à-dire que vous êtes carriériste, vous avez, dans le bon sens du terme.
C'est-à-dire que je veux réussir dans ce que j'entreprends, je veux être la meilleure, entre guillemets, je veux être experte dans ce que je fais, mais pour y arriver, il faut que je m'occupe de moi. Parce que si je ne m'occupe pas de moi, bah, j'y arriverai pas de toute façon. Donc en fait, c'est un objectif que je me mets, mais comment je peux y arriver et dans le bon sens. Alors émotionnellement, oui. C'est normal, hein, mais en fait, c'est juste, il faut, ça prend du temps, hein, parce que il faut changer, en fait, sa façon de voir les choses, sa façon d'être, mais non, c'est un travail au quotidien. Et puis on y arrive. Après, moi, c'est mon domaine de professionnel en ce moment. Donc, si je, moi-même, je n'y arrive pas, comment je vais convaincre les personnes de suivre ou de ce que je leur dis, au fait?
Alors, mais, aujourd'hui, vous êtes dans quoi, justement, Ryslaine?
Je suis dans le développement du capital humain, dans le, tout ce qui est accompagnement professionnel et personnel, sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, comportementale, motivation. Et donc, j'accompagne les gens par rapport à ça.
Alors, est-ce qu'il vous arrive aussi d'accompagner les entreprises et donc forcément les patrons et leur dire que, attention, il faut prendre en considération le fait que cette personne n'est pas capable de travailler 5 jours par semaine, mais elle donnera mieux de par son état de santé, émotionnel ou autre. Elle peut travailler 3 jours par semaine, 4 jours par semaine. Et en face, est-ce que vous avez la prise de conscience nécessaire? Ou bien aussi celle-là.
Non, il n'y a pas de prise de conscience. Non. Donc, par contre, il y a des recommandations que je donne, effectivement, quand je vois qu'il y a des personnes qui sont sous tension, sous pression, pour dire, bon, des fois, changement de management, changement de poste. Et ça, des fois, ça suit, oui. Ça suit, je ne vais pas non plus dire... oui. Mais après, de dire non, elle va travailler 2 jours, 3 jours, non, on n'en est pas encore là.
On n'en est pas encore là. Alors, revenons au lupus, justement, Ryslaine Riachi. Vous l'avez dit, vous êtes sous traitement, mais cette maladie est là. Elle impacte en quoi véritablement votre vie aujourd'hui?
Alors, au fait, quand, alors, je ne sais pas comment je vais dire. Elle impacte, oui, ben, je la ressens. C'est-à-dire que moi-même, hein, donc il faut des siestes, je dors beaucoup, des fois je ne peux pas sortir, il n'y a pas de souci. Mais j'ai expliqué à mon entourage, au fait. Mon entourage connaît cette maladie et vivent avec aussi avec moi. C'est-à-dire qu'ils savent que j'ai besoin de faire des siestes l'après-midi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de ne pas trop bouger, de ne pas trop marcher des fois pour faire du sport ou autre, parce que c'est bien le sport, mais je peux pas le faire non plus au quotidien. Donc ils ont compris. Donc du coup, c'est comme s'il y a un poids qui s'est enlevé, dans le sens où il n'y a pas ce regard de pitié ou ce regard on la comprend pas, elle est tout le temps en train de dormir. Non, il n'y a plus de ça, en fait. Ça, c'était ce qui était difficile. C'est pas ça la maladie, c'est le regard des autres.
Au début, c'était comme ça.
Voilà. Ouais. Mais après, non, franchement, moi, des fois, je l'oublie carrément, cette maladie. C'est vraiment quand il y a des poussées que je me dis, ah oui, au fait, j'ai... c'est ce que vraiment je demande aux femmes qui ont cette maladie et qui peuvent le faire ou qui peuvent se le permettre ou autre maladie, c'est vraiment de vivre. Voilà, c'est... OK, il y a ça, mais ça aurait pu être autre chose, mais ne pas trop s'attarder sur nos mots, on va dire, hein, vivre et s'écouter. Voilà, le plus important, c'est ça.
C'est ça.
Et s'écouter. C'est le meilleur.
Alors, Ryslaine Riachi, justement, vos projets d'avenir, vous qui êtes une femme de projets en effervescence. Qu'est-ce qu'on partage?
Aujourd'hui, alors dans ce que je fais, je gérais le Maroc. Maintenant, je gère le Maghreb et j'adore les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, j'aimerais bien aller là-bas, quoi, aller explorer, aller voir d'autres horizons.
Vous allez pouvoir faire les vaccins nécessaires, prendre les traitements nécessaires contre le palu notamment, etc.
Ah oui, ça j'ai déjà fait. Sans problème. Et puis quand on utilise le médicament, là qu'on prend, on est déjà immunisé, on va dire en fait.
Oui,
ok. Donc il n'y a pas de souci.
Donc il n'y a pas de souci. Moi, je pense à tous les détails.
Mais moi, c'est pas ça qui va m'empêcher. Hein. Donc, s'il faut faire un vaccin, il y a pas de problème. Je suis pas anti-vax. Pas de souci. J'y vais. C'est comme pour le Covid. J'ai fait mes 3 vaccins et je pense que heureusement, parce que bon, vu la maladie et tout ça, donc franchement, non. D'ailleurs, je touche le bois. J'ai je ne l'ai pas chopé. Donc,
Alhamdoulilah, absolument. Alors, Rizlane, justement, l'une des maladies est responsable du fait que vous n'ayez pas d'enfant ?
Tout à fait.
C'est laquelle ? C'est l'endométriose ou...
C'est l'endométriose, oui. C'est l'endométriose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, cette errance médicale a fait que ça s'est... c'est-à-dire qu'on n'a pas pu la traiter à temps, on va dire. Mm. Et donc, j'ai su très jeune que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Et en fait, cette annonce a été très brutale, parce qu'en fait, le médecin qui me l'avait annoncé n'avait pas pris de gants, en fait. Alors ça, c'est un autre problème qu'il faudrait peut-être travailler dessus, que les médecins puissent avoir de l'empathie en annonçant une nouvelle comme ça à une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui pense être un jour maman et tout ça. Donc, je ne peux pas avoir d'enfant, mais par contre, je suis maman de 3 chats et donc je suis comblée.
Oui, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Une fois, vous m'avez dit, je donne aussi beaucoup de tendresse et d'affection à mes neveux.
Tout à fait.
C'est ça. Alors, d'autres femmes sont tombées enceintes malgré l'endométriose.
Oui. Oui. C'est au fait, ça dépend des grades, au fait, ouais. Et des degrés. Okay. Moi, j'étais vraiment arrivée, il n'y avait plus rien à faire. Et même si je voulais tenter, à l'époque, j'étais jeune, j'étais célibataire, donc je ne pouvais
c'était
pas
possible.
De toute façon.
Ouais, ouais.
C'était pas possible. Quoi.
C'était pas le bon moment.
Exactement. Mm. Mais ça a été dur, hein. Je ne dis pas le contraire.
Et donc, en fait...
je ne l'ai pas accepté au début, parce que j'adore les enfants... et tout ça, donc je ne l'ai pas accepté. Et puis à un certain moment, je me suis dit, attendez, je ne vais pas aller contre la volonté de Dieu. Mm. C'est-à-dire que si c'est ça, c'est que voilà, Dieu sait pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant. Je suis très croyante, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que je vive sans. Donc il y a d'autres enfants que je peux accompagner. J'ai mes neveux maintenant. Donc maintenant, je vis avec, au fait. Enfin, je vis avec. C'est bon. J'ai pas de souci. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Donc, mais c'était très dur. Après, j'allais pas m'entêter, j'allais pas essayer de m'apitoyer encore. Oui.
Néanmoins, quand on rencontre l'homme de sa vie, on doit lui annoncer qu'on ne peut pas avoir d'enfant.
C'est clair. Ah oui, ça c'était dès le début. Ouais. Moi je suis très directe et très franche et j'assume les choses et je n'ai aucune pudeur dans le sens où voilà, je dis les choses parce que c'est comme ça qu'il faut avancer et si on ne communique pas et si on ne parle pas, enfin voilà, c'est pas une chose au fait à garder pour soi. Mm. Donc non, moi j'ai été très claire en disant bon voilà, c'est comme ça. On peut pas, je ne peux pas avoir d'enfant.
Est-ce que tu t'embarques avec moi ?
Exactement. Mm. Donc, il n'y avait aucun souci. Pour mes parents, parce que pour les parents, quand même, c'était difficile. Je suis quand même l'aînée. Donc, pour ma mère, c'était difficile. Mais je lui ai expliqué. Donc, voilà, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Bon, on est quand même musulmans et croyants. Donc voilà. Donc, mm. Après, Dieu me le rend autrement. J'ai 4 neveux magnifiques avec qui j'ai une relation très, très complice. Donc voilà, je m'occupe d'eux, mais je n'ai pas les inconvénients des couches.
Oui, des nuits courtes. Absolument.
Voilà, j'ai le meilleur rôle. Je suis la tata d'amour, donc ça va.
Oui. Rizlane Riachi, merci beaucoup pour votre bonne humeur. Merci infiniment d'avoir accepté de parler de toutes ces facettes de votre vie qui font de vous la femme que vous êtes aujourd'hui, avec l'objectif principal et le but principal d'aider d'autres femmes à aller mieux, à se sentir mieux et à vivre leur vie pleinement. Merci Rizlane. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.